Tout pour investir. La place de l'Immo.
La place de l'immobilier tous les jours dans Tout pour investir vers 11h15 pour ceux qui nous écoutent en direct, vers le milieu de l'émission pour ceux qui nous écoutent intégralement en podcast. Nous faisions un petit peu plus tôt dans l'émission un point sur la pérennité de votre conseiller bancaire. Est-ce que vous aurez toujours un conseiller bancaire dans le futur? Vous avez été très nombreuses et nombreux à réagir et je voudrais citer la réaction de Franck qui m'a écrit par email à direct@bfmbusiness.fr. Il nous écrit: on est passé d'une génération de conseillers épargne à une génération de conseillers crédit. Marie, ça vous parle?
Alors oui, ça me parle un tout petit peu. Bon, je vais pas me faire que des amis. Alors je tiens à préciser quand même, parce que je sais que les banquiers m'aiment pas trop. Bon, moi j'adore.
Vous ne vous aimez pas encore?
Non, alors j'adore ma banquière. Donc si elle nous écoute, elle est super. Mais c'est vrai que globalement sur le crédit immobilier, pendant longtemps, on a eu les meilleurs banquiers qui sont partis dans les réseaux de courtage pour devenir justement courtier en crédit immobilier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on attend, à l'heure de la digitalisation, etc., c'est vrai qu'on attend davantage de nos conseillers bancaires. Moi, autour de moi, alors c'est peut-être parce que je gère les questions immo et logement, mais autour de moi, j'ai quand même des histoires hallucinantes de banquiers qui sont au courant de peu de choses concernant le crédit immobilier, que ce soit les règles du Haut Conseil pour la stabilité financière qui ont lourdement et qui continuent lourdement de pénaliser le marché. Parfois, ils sont assez approximatifs sur le sujet parce qu'ils sont dans une forme de protection de la banque, mais sans vraiment mesurer l'impact, etc. Donc, ils font des raccourcis. Je vous épargne le sujet assurance de prêt dont on pourrait reparler, avec des techniques quand même à la limite de la légalité de certains conseillers bancaires pour vous garder captif et vous empêcher de prendre votre assurance de prêt ailleurs. Bref, il y a quand même des sujets autour des banquiers, bien que, encore une fois, je refuse de me faire une généralité. Il y a des dérives dans toutes les banques, mais il y a des super banquiers aussi. Et encore une fois, je salue la mienne.
Plus de digital, plus de conseils et plus d'humains. Voilà les demandes des clients par rapport aux services bancaires. Vous êtes banquier, vous êtes conseiller. Vous voulez partager avec nous les difficultés de votre métier ou justement comment vous pensez que vous faites bien votre métier. Vous avez aussi un droit de réponse. N'hésitez pas à réagir et à nous, à nous parler aussi de comment ce métier évolue et comment on fait pour accompagner les gens dans la gestion de leur argent dans un monde qui a besoin de plus de digital, plus de conseils et en même temps qui se polarise. Voilà, bon, c'était une introduction au sujet immobilier. Nous allons accueillir notre invité maintenant, c'est Loïc Quentin. Bonjour cher Loïc.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le président de la FNAIM, la FNAIM, comme je vous appelle depuis le début de l'émission. On va faire avec vous le point sur le marché immobilier, il y a pas mal de choses à dire. On va quand même commencer par se dire quelque chose qui va pas trop mal, comme vous diriez Marie, la baisse des prix.
Ouais, alors même la baisse des prix, j'ai quand même de vilains doutes, donc je me retourne vers Loïc. Comment ça va globalement, transactions, prix? Est-ce que vraiment ça va mieux tel qu'on est en train de nous le dire depuis 2-3 mois là?
Eh bien, nous sommes dans les pronostics qu'on a établis à la fin décembre 2023, ou une conférence de presse de janvier. Rappelez-vous, on avait dit que après une année où c'était la baisse des volumes, hein, on a fini à 869 000 transactions.
Ce qui n'est dans l'absolu pas si terrible, mais qui est quand même une lourde chute par rapport à l'année précédente.
Par rapport aux 1 200 000 précédemment. Et l'année 2024, elle est composée à la fois avec la poursuite de la baisse des volumes et le relais de la baisse des prix. Et c'est ce qui se passe.
On en est à
quand
combien,
on voit
là,
aujourd'hui, à fin février,
des chiffres.
Fin février 2024, 835 000 transactions sur une année lissée. On a pronostiqué à 800 000 l'atterrissage à fin 2024 et nous y serons. Sur les prix, on avait pronostiqué 5 à 7%. On le voit sur les grandes villes, 5,8% à Nantes, 5% à Lyon, Bordeaux également. Donc là où les villes avaient le plus augmenté, là où les villes sont les plus denses et les plus fortes en population, eh bien, il est plus forte baisse de prix. Et ce qui est en train de se passer. Alors, France entière, nous, on a pronostiqué 5% de baisse sur l'année 2024. On va y être.
Mais vous savez, l'immobilier... On était à combien, rappelez-nous, en 2023?
Le quoi?
La baisse
baisse, elle était à 1,8%.
D'accord.
L'immobilier est un temps long. Alors maintenant, aujourd'hui, il faut analyser aussi l'évolution de l'immobilier par rapport à, je dirais, en euros constants. Un prix immobilier aujourd'hui est un prix en euros constants qu'il faut corriger de l'inflation. Quand tu as eu 14% d'inflation en 3 ans et demi, il faut les intégrer avec la correction des prix pour pouvoir qui se situait le pouvoir d'achat des ménages perdus.
Bon, on sait que tout ça, c'est quand même lié à l'évolution des taux d'intérêt.
Oui, bien sûr.
Justement, on nous a dit depuis le début de l'année, on le constate, il y a quand même une nette. Je suis pas, pardonnez-moi, j'ai pas coupé mon portable, donc je le dis à l'antenne parce que
je
s'entends.
Discuter, Marie.
Je vais me faire gronder. On le dit depuis le début de l'année, on a quand même une baisse des taux. Alors, elle est pas considérable, mais elle est quand même là. Bah, alors, attendez, au dernier pointage, on est autour de 3,8 oui, mais... sur 20 ans. Je vous rappelle qu'en fin d'année dernière, en décembre, on devait être pas très loin de 4,5%. On a quand même.
On a perdu 0,2 points exactement.
On a quand même. Bon.
Et puis,
on a des banques qui sont quand même un peu plus souples pour l'octroi de crédit.
Ce n'est pas de nature suffisante à pouvoir redresser et redonner la dynamique au marché.
Mais alors, que ce ne soit pas de nature suffisante pour redonner
d'ailleurs,
la dynamique au marché.
Vous voulez un exemple sur la production de crédit. Allez, j'annonce les chiffres. Fin janvier 2024, 10 milliards d'euros de crédit distribué par rapport aux 25 milliards en période.
Je continue.
8,4 milliards fin février et 6,7 milliards fin mars. On va quand même pas parler d'une reprise d'une activité avec des volumes de crédit aussi bas.
Je conteste, c'est Loïc. Trompé. Vous citez les chiffres de la Banque de France. Moi, je suis désolée. Les chiffres de Crédit Logement CSA qui sont publiés ce matin, il y a 2 heures, c'est une hausse par rapport à décembre en volume de prêts accordés de plus de 70% par rapport à décembre.
Alors, les prêts
avril.
Accordés ou les prêts en montant?
Non,
en
justement.
Volume.
Non, les prêts, le nombre de prêts accordés. Mais pourquoi?
Si la Banque de France se trompe, je vais faire une requête.
Mais c'est pas que la Banque de France se trompe, c'est que la Banque de France est en décalage total. Elle mesure les crédits décaissés. Donc en réalité, les chiffres qu'elle nous donne là, c'est l'état du marché de décembre dernier. On va pas se mentir, il y a toujours un décalage de 3-4 mois.
Oui,
mais bien sûr, pour mesurer en temps réel, vous pouvez pas me dire quand même que là, les volumes de crédits et même de visites.
Les volumes de crédit sont corrélés au volume des transactions.
Mais
on est arrivé à 835 000 à fin février.
Mais vous voyez
Marie.
Pas de petits sursauts par rapport à la fin de l'année
mais
dernière.
Mais c'est normal, parce que bien évidemment, lorsque les gens entendent que les prix commencent à baisser, lorsque le banquier recommence à mieux accueillir ses clients, lorsqu'il y a une baisse petit sensible, on ramène un frémissement, mais c'est finalement un rattrapage plutôt qu'un redémarrage.
On est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même, il s'est passé quelque chose depuis 3-4 mois quand même.
Oui,
on ne peut pas le nier, je suis d'accord.
Heureusement,
vous ne m'entendrez pas dire que la crise du logement est derrière nous.
Oui, les acquéreurs reviennent et poussent la porte des cabinets immobiliers.
Et pour sortir de votre discussion un petit peu écosystémique, pour ceux et celles qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ont un projet d'achat ou un projet de vente là?
Aujourd'hui, bien, de toute façon, je crois que la négociation est entre les mains des acquéreurs. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que les propositions, elles sont à moins 10, à moins 15% en départ, elles se traduisent après à 5, 6% ou 7% en valeur. Mais les acquéreurs ont repris le chemin de la négociation par rapport à des vendeurs qui ne peuvent plus se permettre d'attendre plus longtemps. Donc voilà, c'est l'effet normal d'un cycle immobilier. Mmh. On est en train de corriger des excès de prix et notamment impactés par la hausse des taux d'intérêt. La seule chose qu'on peut souhaiter, c'est que la BCE nous annonce une baisse des taux importante en juin. Mais voilà,
ça
on aura peut-être ces points.
Quoi importante?
Importante, déjà, il faudrait renouer avec les taux antérieurs. Rappelons-nous, mars 2023, nous étions à 3,3% de taux d'intérêt. Aujourd'hui, on a 3,82, 3,84. On est loin, il faudrait 0,5 point sur les taux d'intérêt de baisse prononcés par la BCE. Mmh. Je n'y crois pas du tout. Et d'ailleurs, en plus, tout ça s'est soumis, à supposition, compte tenu que aujourd'hui, le climat géopolitique international ne nous permet pas d'anticiper et d'avoir une certitude sur la baisse des taux d'intérêt en juin, et compte tenu qu'aujourd'hui, la Fed a déclaré vouloir différer toute baisse de ces taux d'intérêt sur le marché.
Bon, j'ai voulu faire un peu d'optimisme quand même sur le marché de la transaction. En revanche, là, je vais avoir des difficultés à le faire sur le marché de la location.
Ah bah oui.
On en est où? Parce qu'on a beaucoup parlé de la crise du marché locatif, surtout à la rentrée de septembre, parce que c'est toujours le moment où on en parle pour les étudiants, etc. On en est où aujourd'hui? Est-ce qu'on a suffisamment d'investisseurs locatifs? Est-ce qu'on n'a pas trop de demandes à la location? Est-ce que les choses commencent un tout petit peu à se fluidifier, ou là, pour le coup, on est complètement tanké dans la même crise?
Là, on est en train de s'enfoncer, de s'enliser dans une crise du marché locatif inédite. Et tout ça, pourquoi? Parce que, d'abord, premièrement, l'investisseur n'est pas revenu sur le marché.
Pourquoi il ne revient pas, l'investisseur?
Mais il ne revient pas, parce qu'aujourd'hui, avec des taux des rendements qui sont trop faibles, à 4%, quand on a un taux de crédit à 4 points, est-ce qu'on va acheter de l'immobilier? Donc aujourd'hui, si on a de liquidité, on les place sur les marchés financiers, on a les mêmes rendements aussi, mais je dirais, tout le spectre fiscal de l'investissement locatif est un vrai repoussoir. Et puis aussi, les obligations de rénovation énergétique ne sont pas de nature à favoriser. En plus, l'excès des normes sur le parc vide pousse beaucoup de propriétaires à aller vers le meublé. On voit l'explosion. Aujourd'hui, vous constatez, vous allez sur une grande ville, il y a plus de locations meublées que de locations vides, avec des locations meublées qui sont parfois 40% plus chères, et que ne justifie qu'une chose, une location meublée, je le rappelle, c'est un logement vide, avec parfois 1500 euros de meubles IKEA ou les meubles de la grand-mère. Donc c'est pas de nature suffisante à pouvoir enregistrer une telle évolution de mobilité.
Mais alors justement, enfin moi, enfin je vais complètement dans votre sens. J'ai dénoncé d'ailleurs la multiplication de ces beaux codes civils qui normalement ne sont destinés qu'à une résidence secondaire pour les locataires. Or on les voit exploser. En fait, on n'a plus aujourd'hui de location qui répond à la réelle demande. Non. Comment on fait pour justement redonner envie aux investisseurs d'investir dans du nu classique, by loi de 89.
Je crois que de toute façon, d'abord premièrement, c'est entre les mains du législateur pour arriver à, je dirais, à redonner un cadrage, parce qu'il est essentiel que la location vide soit l'essentiel de ce marché pour accompagner la mobilité résidentielle des ménages français, parce qu'on ne peut pas avoir d'emploi s'il n'y a pas de mobilité, s'il n'y a pas de logement. C'est un critère fondamental. Alors le fiscal, pour pouvoir redonner envie aux gens de se positionner sur l'immobilier, nous on a fait une très belle proposition, investissez aujourd'hui, défiscalisez demain. Si vous voulez, je vous en dis deux mots.
Ah bah,
vous permettez à un Français qui achète dans l'immobilier, notamment, sous condition de porter son investissement pendant 10 ans, les 10 années suivantes, il sera exonéré d'impôt sur ses revenus locatifs. Et ils sont portés à 15 ans s'il achète dans le neuf ou s'il fait des travaux de rénovation énergétique. Un point important, stabilité du parc pendant 20 ans. Deuxièmement, on permet à un Français à l'âge de 55 ans de se projeter à la retraite, de dire à 65 ans, je pourrai avoir 600 euros ou 700 euros de revenus locatifs complémentaires, exonérés d'impôt sur les revenus locatifs, pendant mes 10 premières années, là où je vais toucher moins. Donc je fais l'effort d'épargne pendant les 10 dernières années d'activité et je retrouve un résultat pendant les 10 premières années de retraite. Voilà un beau signal qui permet en plus de soulager le neuf, d'être un beau signal pour la rénovation énergétique et qui permet en plus un différé de prise en charge par l'État au titre de l'avantage fiscal consenti là où les recettes de l'État sont exsangues.
Ouais.
C'est un beau dispositif qui trouverait à s'appliquer et je pense, et la FNIM est tout à fait optimiste sur cette disposition et cette proposition.
Loïc, vous prêchez une convaincue là tout de suite sur ce plateau. Déconvaincu, je pense. Le souci, c'est qu'on n'a pas du tout l'impression. Justement, vous parliez des problèmes d'ordre de recettes pour les finances publiques, mais même visiblement de dépenses, hein, puisqu'on a eu justement notre projet de loi logement abordable qui a été
attendez,
présenté.
Attendez, Marie, je voudrais rebondir sur l'idée de Loïc juste avant. Après, pardon de vous couper. Moi, j'adore votre proposition parce qu'elle me parle en tant que voilà,
je m'occupe
de finances personnelles, etc.
Lisible.
Mais est-ce que vous pensez que le niveau d'éducation financière des Français est suffisamment élevé pour que le gouvernement s'y intéresse?
Ben je crois, de toute façon, pour élever le niveau d'éducation financière des Français, il y a des professionnels, c'est notre rôle, notre quotidien, aussi bien les courtiers que les professionnels de l'immobilier. Mais je pense que c'est à l'État de bien comprendre la portée de ce dispositif, et notamment l'impact qu'il peut avoir là où on ne peut plus mobiliser de finances aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation, 160 milliards de déficit budgétaire à l'année, on n'a rien à attendre. Je rencontre Bruno Le Maire au mois de juin, c'est un rendez-vous reporté, mais je lui expliquerai cette proposition et j'espère avoir gain de cause.
Bon, à vous refiler quand même la patate chaude, hein, parce que c'est une moindre recette fiscale pour les finances publiques dans 10 ans, donc je suis pas certaine qu'ils aillent dans votre sens.
Oui, il y a un différé de 10 ans, alors on souhaite quand même que dans les 10 ans, on va réussir à s'en sortir. Aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas de recette, il n'y aura aucun argent pour l'immobilier. Dans tous les cas, vous l'avez vu, la loi de logement, proposition de logement de Guillaume Kasbarian.
Proposition de loi, logement abordable, vous en pensez quoi?
Il n'y a aucune ressource. Eh bien, je pense que, déception de ma part, totalement insuffisante. Il y a un an, c'était les travaux du CNR, on était encore en attente. Un an plus tard, il n'y a pas grand-chose. Oui, des dispositions, droit de préemption renforcé des communes que l'on connaît, il y a certaines dispositions, mais je dirais que ce n'est pas de nature suffisante. Le paragraphe sur le logement social n'était pas nécessaire. Je pense que même s'il y a, je dirais, une équité, une justice à remettre en ordre, je crois, pointer le doigt là-dessus n'était pas de nature suffisante. Moi, j'aurais fait une proposition à Guillaume Kasbarian, c'est que finalement, est-ce que le parc social a une vertu à maintenir un actif, des actifs immobiliers en sa propre possession. C'est-à-dire, j'aurais mis, moi, plutôt une disposition visant à forcer les établissements sociaux de l'habitat, les ESH, sociétés d'HLM, à vendre une partie de leur parc pour le transférer à leurs occupants et notamment leur permettre de retrouver aussi l'investissement qu'ils avaient fait en tant que locataires dans le logement qu'ils ont loué pendant longtemps. Augmenter les quotas et même mettre une sanction s'ils ne la respectaient pas, comme on le fait en matière de communes pour la loi.
Là, quand même, je peux pas aller dans votre sens, Loïc, parce qu'en l'occurrence, il y a déjà la possibilité pour les bailleurs sociaux de vendre une partie de leur parc.
Pas suffisant.
Le sujet, c'est encore faut-il que leur locataire soit en mesure de l'acheter et souhaite l'acheter. Oui. Et en l'occurrence, souvent, ce qu'ils veulent acheter, c'est pas ce qui est à vendre, parce que c'est ce qui rapporte le plus aussi aux bailleurs sociaux. Mmh. Il leur faut quand même un équilibre financier. Or, on le rappelle, leurs ressources, leurs principales ressources, et là-dessus, le projet de loi insiste beaucoup, hein, ça reste les loyers qu'ils perçoivent pour les bailleurs sociaux.
Marie, vous savez qu'un ESH est exonéré d'impôts société, a des prêts bonifiés sur 35 ans, est exonéré de taxes foncières pendant 15 ans, a une TVA généralisée à 5,5. Je pense quand même que les bailleurs sociaux ont un arsenal d'avantages fiscaux et financiers à leur disposition pour permettre d'avoir une production adaptée. Plus qui plus
si
est, bénéficie des obligations imposées par les maires de vendre à des prix inférieur au prix de revient. Et là, j'aurais souhaité du courage de l'État français en disant on va interdire aux communes de pratiquer la vente à perte imposée aux promoteurs au profit des bailleurs sociaux.
Ils sont ravis quand même. Alors,
à l'État de reprendre le financement du logement social.
Un débat à 1 minute 30 de la fin. Enfin, ils sont quand même très contents, les promoteurs, de trouver des bailleurs sociaux.
Ils sont contents
pour
que
leur racheter,
inéquité,
même à moins cher, pour leur racheter des programmes qui ne sont
pas preneurs. Oui, mais c'est un dispositif qui inflate le prix de l'immobilier neuf, qui est contre l'intérêt des Français. Voilà, je crois, l'impôt palier, ça ne devrait pas exister dans ce pays.
On n'est pas d'accord, c'est terrible, c'est terrible. Bon, un mot quand même.
On en reparlera, Marie.
Avant de se dire au revoir, c'est quoi les prochains outils que vous souhaitez voir appliquer? Vous avez parlé d'un outil d'ordre fiscal. Est-ce qu'il n'y a pas plus simple, plus rapide, plus concret pour relancer la machine immobilière aujourd'hui?
Pour relancer la machine immobilière, c'est très très compliqué. De toute façon, avant toutes les crises précédentes, on avait encore quelque chose sous le pied de la part de l'État, où l'État pouvait intervenir. Notamment, mais on ne peut rien faire en disponibilité immédiate. On ne peut pas mobiliser les recettes de la France. Il n'y a plus de recettes budgétaires pour pouvoir accompagner le logement. C'est là toute la difficulté. Donc, il faut trouver des solutions originales, c'est la solution qu'on a préconisée. Et puis aussi, on a un enjeu de rénovation énergétique. On vient de déposer une mesure de simplification pour la vente en état futur de rénovation énergétique. La VEFRE, que vous aimez beaucoup.
La VEFRE, oui.
Et bien, on y croit aussi, y compris la portabilité des prêts. D'ailleurs, un député vient de faire une proposition de loi dans ce sens, député Renaissance. Et voilà, la FNIM est ravie d'avoir été entendue.
Merci beaucoup à tous les deux pour cette discussion. Et oui, ce sont des sujets complexes. Il y a des solutions aux problèmes. Voilà, maintenant la mise en place de ces solutions, le travail de conviction avant. Vous nous raconterez votre discussion avec Bruno Le Maire.
Avec plaisir.
Vous viendrez nous voir après. On souhaite beaucoup de succès à cette discussion pour débloquer ce marché de l'immobilier qui est vital pour notre pays et puis pour vous, pour nous, acteurs de l'économie. Particulier. Merci, chère Marie. Merci, cher Loïc Quentin, président de la FNIM.